Pierre-Louis, une volupté nouvelle. Il y a 4 ans, peut-être 5, j'habitais plusieurs jours par semaine un rez-de-chaussée incommode, mais clandestin et costumé, dans une rue qui communiquait avec une de ses extrémités avec le petit parc Monceau. Détail sans intérêt pour moi, car la grille en était fermée tous les soirs avant minuit, de sorte que je n'y pouvais passer précisément à l'heure où j'apprécie la marche en plein air. Une nuit, comme je me trouvais là, en conversation silencieuse avec deux chats de faïence bleus accroupis sur une table blanche, j'hésitais à choisir entre deux passe-temps de solitude. Écrire un sonnet régulier en fumant des cigarettes, ou fumer des cigarettes en regardant le tapis du plafond. L'important est d'avoir toujours une cigarette à la main. Il faut envelopper les objets d'une nuée céleste et fine qui baigne les lumières et les ombres, efface les angles matériels et par un sortilège parfumé impose à l'esprit qui s'agite un équilibre variable d'où il puisse tomber dans le songe. Ce soir-là, j'avais l'intention d'écrire et le désir de ne rien faire. En d'autres termes, c'était une soirée qui ressemblait à toutes les autres et allait fatalement se terminer devant une feuille de papier vierge et un cendrier plein de cadavres, quand je fus tout à coup tiré de mes pensées par un coup de sonnette inattendu. Je levai la tête, je me persuadais que le vendredi 9 juin, je n'attendais personne à 7 heures de nuit. Mais comme un second coup de sonnette suivit de très près le premier, j'allai à la porte et je tirai la serrure. La porte ouverte, je vis une femme. Elle se tenait enveloppée dans un manteau flottant qui était de drap beige comme un vêtement de voyage, mais broché d'entrelacs comme une sortie de bal. Cela se serrait autour du cou par une chenille ronde et tournefue, d'où la tête émergeait à peine, toute brune sous les cheveux teints en blond. Le visage était jeune, sensuel, un peu railleur, deux yeux très noirs, une bouche très rouge. « Veux-tu bien me permettre de passer ?» dit-elle en penchant la tête sur l'épaule. Je m'effaçais avec l'étonnement particulier d'un homme qui voit entrer chez lui, alors on ne reçoit guère que les amis les plus intimes, une femme qui ne lui rappelle pas le moindre souvenir et qui le tutoie dès la première phrase. « Cher ami, lui dis-je timidement quand je l'ai suivi dans ma chambre, cher ami, ne m'accuse pas, je te reconnais à merveille, mais je ne sais par quelle infortune je ne suis à l'instant me rappeler ton nom. Ne serait-ce pas Lucienne ou Totote ? » Elle eut un sourire d'indulgence et, sans répondre, elle défit son manteau. Sa robe était de soie vert d'eau, ornée de gigantesques iris, tissée avec la robe elle-même et dont les tiges montaient en fusée le long du corps jusqu'à un décolletage carré qui montrait nu le bout des seins. Elle portait à chaque bras un petit serpent d'or aux yeux d'émeraude. Un collier de grosses perles à deux rangs brillait sur sa peau foncée, en marquant la naissance du cou qui était mobile et arrondi. « Oh, si tu me reconnais, dit-elle, c'est que tu m'as vu en rêve. Je suis Callisto, fille de Lamia. Pendant 1800 ans, mon tombeau est resté en paix dans le bois fleuri de Daphné, près des collines où fuit la voluptueuse Antioche. Mais maintenant, les tombeaux voyagent. On m'a emmené à Paris et mon ombre suivait la pierre qui contenait des cendres fines. Longtemps encore, j'ai dormi enfermé dans les caves glaciales du Louvre. Et j'y serai toujours si un grand païen, un saint homme, Monsieur Louis Ménard, le seul qui se souvienne aujourd'hui des rites et des gestes divins, n'avait prononcé devant ma tombe les paroles traditionnelles qui savent rendre aux pauvres mortes une vie éphémère et nocturne. Et pendant 7 heures, chaque nuit, je me promène dans la sale ville. « Oh, pauvre fille, interrompis-je, comme tu dois trouver le monde changé !»« Oui et non. Je trouve les maisons noires, les costumes laids et le ciel lugubre. Quelle singulière idée vous avez que de tenir habité sous un pareil climat. Mais je trouve que la vie est plus sotte et que les gens ont l'air moins heureux. Mais si j'ai une stupéfaction, c'est bien de revoir à chaque pas toutes les choses que j'ai connues. Comment, en 1800 ans, vous n'avez fait que cela ? Rien de plus nouveau ? Rien de mieux, vraiment ? Ce que j'ai vu dans vos rues, dans vos champs, dans vos maisons, mais c'est tout, c'est bien tout. Quelle misère, mon ami ! L'étonnement qu'elle me vit prendre pouvait tenir lieu de réplique. Elle sourit et s'expliqua. « Tu vois comment je suis habillée, » me dit-elle. « J'ai la robe qu'on a mise avec moi au tombeau. Regarde-la. De mon temps, on s'habillait avec la laine, du fil et de la soie. Et revenant sur terre, je croyais trouver tous ces vieux tissus, disparus même des mémoires. » Je m'imaginais, oh pardonne-moi, qu'après de si longues années, les hommes auraient découvert des étoffes merveilleuses, comme le soleil ou la lune, et plus voluptueuses au toucher que la peau d'une vierge ou d'un fruit. Mais non, de quoi vous habillez-vous ? De laine, de fil et de soie. Oh, je sais, vous avez trouvé les cotonnades, et vous en enveloppez les nègres, qui vous semble inconvenant dans l'état où il se promène. C'est peut-être extrêmement moral. Tu aimes beaucoup le coton, tu es fier de sa découverte. Moi, je ne peux pas même sentir sous mes doigts cette chose qui colle et qui se défait. Enfin, avez-vous une étoffe mieux drapée que la laine ? Non, plus fine que le fil de lin. Plus lumineuse que la soie, mais réponds-toi même. » Elle poursuivit. « De mon temps, on se chaussait avec du cuir. On connaissait les mules, les souliers de couleur, les pantoufles fourrées, les bottines montantes. Tiens, tes souliers de cycliste, découverts avec une bride un peu plus haut, c'est une forme phrygienne. Regarde maintenant les miens. Ils sont en maroquin olive et dorés au petit fer comme une reliure. Admire-les. Tu n'en trouveras pas d'aussi beau chez le fournisseur de tes amis. » Elle poursuivit encore. De mon temps, pour faire les bijoux, on se servait de 2 métaux précieux, l'or et l'argent. En avez-vous trouvé un troisième ? On en faisait des colliers, des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles, des diadèmes et des broches. J'ai retrouvé tout cela rue de la Paix, identique. Nous connaissions les perles, l'émeraude, le diamant, l'opale, la pierre de lune, le rubis, le saphir et tous les silices nuancés qui viennent de l'Arabie et de l'Inde aujourd'hui comme autrefois. Par hasard, auriez-vous créé une pierre précieuse en 18 siècles ? Une seule, donne-moi une, je t'en prie. Une pierre que je n'ai pas connue, une bague que je n'ai pas mise à mon doigt, un bijou nouveau, même monté en or comme les miens, puisque tu n'as pas de métal plus rare à m'offrir, mais pourtant, dans ses griffes, une gemme inventée. » Sa voix s'était animée peu à peu jusqu'à un ton de reproche et de dépit. Je fis un geste beaucoup plus calme. « Calisto, répondis-je, tu me parais attacher une importance exagérée aux ornements dont les femmes se chargent et qui n'ont pas d'autre excuse que d'occuper par leurs choix difficiles et leurs compositions méticuleuses une vie stagnante et désœuvrée. Il est évident aujourd'hui, après 10 000 ans d'efforts infructueux chez tous les peuples, qu'une jeune fille ne saurait être plus belle par l'art du couturier, du brodeur et de l'orfèvre, qu'à l'instant même où elle se montre toute nue comme les dieux l'ont créée. Ce simple costume, je ne doute pas que les Grecs ne l'aient connu. Pas mieux que tes compatriotes. Oh, vous ne l'avez pas inventé, n'en sois pas fier. Je reconnais que de nos jours, on le travestit encore plus mal que du temps où tu es né. Mais du mauvais au pire, la différence importe-t-elle? On ne peut pas habiller les femmes. C'est un axiome. Nous ne les détruirons pas. Si les vérités esthétiques pouvaient se démontrer par théorème, M. Poincaré aurait déjà prouvé mathématiquement qu'il est inutile d'exercer l'imagination humaine à la recherche de cette découverte, aussi certainement chimérique que la trisection des angles. Non, pour ma part, je ne m'affiche pas d'un insuccès qui persiste parce qu'il est éternel. Et je me contente d'admirer la femme dans sa pureté primitive, qui elle aussi est immuable avec l'émotion antique de ceux qui touchèrent Hélène. Elle me regarda plus fixement en penchant la tête vers moi et me dit avec lenteur « Es-tu sûr, ô présomptueux, que les femmes n'aient pas changé ?» Ce qu'elle fit immédiatement après avoir dit ces mots, je ne sais si je l'ai vu dans le trouble où j'étais. Comment elle quitta ses bagues, fit glisser 4 bracelets, ouvrit son collier, laissa tomber ses vêtements en même temps que ses lourds cheveux, je ne pourrais le dire. Ce fut si rapide et si éclatant qu'il m'en est resté dans la mémoire un éblouissement plein d'ombre. Jusque-là, je n'avais pas cru avec certitude à la réalité de l'aventure. Les apparitions, longtemps prises pour surnaturelles, et désormais tenues plus volontiers comme obéissant aux lois d'une nature profonde et mal connue, se présentent parfois avec les caractères d'une matérialité qui n'est démentie par aucun de nos sens et qui peut égarer un esprit incrédule ou simplement prévenu contre l'invraisemblance. Je me demandais depuis une heure si je n'étais pas mystifié par une lectrice extravagante. Quelque étrangère, pensais-je, assez immodeste et assez délibérée pour se rendre la nuit dans une chambre à coucher où on ne l'invite point. Veut sans doute faire oublier le dessein banal qui l'entraîne en considération du soin qu'elle apporte à le dissimuler dans une robe de théâtre. J'avais répondu dans le sens où elle me conduisait elle-même, avec la réserve d'un interlocuteur complaisant qui, par déférence ou par curiosité, ne veut pas déchirer trop tôt le tissu d'une comédie laborieuse et intéressante. Mais dès qu'elle fut nue, je compris qu'elle venait à moi du fond du passé. Je me souviens très bien qu'au moment où j'en eus la certitude, j'ébauchais, si je n'achevais pas, tous les mouvements qu'un instinct religieux m'inspirait invinciblement. Je me retins de ma chaise pour ne pas me mettre à genoux. Je la regardais en inclinant le front avec un sentiment de sacrilège, comme si une personne aussi miraculeuse ne devait pas être contemplée avec les mêmes yeux qui voyaient les femmes vivantes. Callisto était grande. Elle avait le torse étroit et rond, la taille haut placée, les jambes très longues. Ses articulations étaient d'une fragilité qui me ravissait, et même dans ses cuisses musclées, on devinait des os délicats. Épilée, mais pure et sans fard, sa peau luisait comme au sortir du bain, brune d'un léger ton uniforme, presque noir au bout des seins, au bord allongé des paupières et dans la ligne courbe du sexe. Je ne saurais expliquer comment sa beauté ne pouvait s'être accomplie ni sous notre climat, ni même dans notre temps, car cette évidence ne laissait d'aucun détail, mais seulement d'une harmonie et peut-être d'une clarté. Pour affirmer une différence entre elle et les femmes de mon époque, j'étais obligé de croire, sans autre preuve, à mon discernement, comme un collectionneur distingue le vrai du faux, sans que parfois il puisse se démontrer qu'il se fonde sur un indice particulier pour établir sa conviction. Et comme pour se mettre à ma portée, elle s'étendit sur une chaise longue. « Vous auriez pu au moins perfectionner les femmes, » reprit-elle en souriant. « Et tu le vois, les races sont perdues. Vos médecins qui méprisent les nôtres, pourquoi laissent-ils aujourd'hui tes maîtresses moins belles que mes sœurs? La terre où nous vécûmes ne s'est pas engloutie. Leur onde descend toujours du fond des montagnes de cèdres. Smyrne survit. Sparte est morte, mais Athènes est ressuscitée. Siècle vaniteux et débile, mais pourquoi remplaces-tu les Ioniennes par le mélange des Levantines? Et que as-tu créé des sélections de femmes, comme tu crées des familles de roses? Tu ne peux pas. Ton effort est celui d'un enfant. Le nôtre fut celui des dieux. Pendant qu'elle me parlait, je n'étais guère en esprit de discuter contre elle. Une terreur, comme on en a guère que dans le frisson du demi-sommeil, m'étreignait les tempes. Je tremblais que ne me quittât tout à coup comme un être fluide, un néant de lumière. Je me demandais si mes yeux seuls auraient l'illusion de sa présence charnelle, si je pouvais, du bout des doigts, sur la peau tendre de sa hanche, la toucher. « Viens, » dit-elle en riant, « je ne suis pas une ombre. Donne-moi la main. » Et cambrant les reins sur la chaise longue, elle passa mon bras autour de son corps, qui pesa voluptueux sur mes doigts. Puis, avec un entêtement qui ne voulait point se démentir, elle reprit sa conférence. « 1000 ans avant que je ne fusse belle, les hommes s'unissaient aux femmes à peu près comme les boucs aux chèvres. Tu as lu Homère. Ni Argos ni Troie n'ont connu d'autre plaisir que ceux de l'acte sauvage dont les animaux se contentent. Même le baiser sur la bouche était ignoré de Briseis. Jamais Andromaque ne rendit sa poitrine à d'autres lèvres qu'à celle de son petit enfant. Jamais autour des flancs d'Hélène une main ouverte et légère ne souleva le frémissement qui naît de la caresse humaine. Elle ferma les yeux. Et puis, tout à coup, en un jour, l'antique Orient où je suis né prit au Dieu, comme un feu éternellement jeune, le seul don qui le distingua des autres habitants de la terre. Il inventa la volupté. Ô jour de Sève, jeunesse du monde, pour la première fois, les lèvres d'un homme et d'une femme, laissant les fruits, se savourèrent. La grande âme brûlante d'Aphrodite inspira le corps des amants, et chaque jour un plaisir nouveau, tu m'entends, descendait de l'âme bleue dans les larges lits gémissants. Oh, ce fut une ivresse effrénée! De Babylone au mont Eryx, tous les parfums, toutes les soieries, les fleurs, les arts et les femmes formèrent le triomphe qui suivit la découverte de la joie. Les jeunes filles, enfin libérées d'une barbarie héréditaire, conscientes de leur sens et de leur désir, ouvrirent leurs narines à la rose et leur corps charmant à la bouche. Pendant des siècles, on augmenta leur trésor des sensualités. De mon temps, d'Antioche et d'Alexandrie, les femmes l'enrichissaient encore. Moi-même, moi, Callisto, fille de Lamia, c'est moi qui ai trouvé ceci. Mais je reculais. Elle se rit. Ah, tu as peur. Eh bien, parle à ton tour, voyons. Pendant les 1900 ans de mon sommeil dans le tombeau, quelle joie inconnue avez-vous conquise? Je te demandais tout à l'heure une perle nouvelle. Je te demande maintenant un amour que je n'ai pas expérimenté. Sans doute, depuis si longtemps, on a dû révéler des jouissances toutes neuves. J'attends que tu m'invites à les partager. Elle se maintenait avec sécurité dans ses positions d'ironie, et je devinais bien que, pendant ses longues courses nocturnes à travers la ville, elle avait essayé en vain de compléter son éducation. Aussi ne tentais-je rien dans cette impossible voie. Prends patience, lui dis-je simplement. Vois-tu, nous avons commencé par tout oublier, et puis nous réinventons. C'est ce qu'on appelle l'histoire de la civilisation moderne. Il est arrivé au monde, au peu d'années après ton trépas, des calamités sans exemple qui auraient pu être irréparables. Ce fut d'abord la naissance et la singulière fortune d'une religion qui, à son origine, était moralement admirable, mais qui, dénaturée par les Israélites trop grossiers ou trop adroits, a stérilisé l'effort de ta race et semé du sel sur les ruines d'Athènes. Ensuite, ce furent des inventions de barbares. Quand le déluge de Judée eut pourri le bois du vaisseau, les rats y pénétrèrent et le mirent en pièces. Cela dura jusqu'au jour nouveau, où l'on vit monter de l'Orient, comme une aurore, les livres sauvés du désastre et revenus de Constantinople. Nous mîmes 100 ans à les lire. Depuis qu'ils sont étudiés, 3 siècles à peine ont vécu. Mais le temps est à nous, peut-être. Laisse-nous le temps, Callisto. Elle eut un sourire de dérision. Mais trouveras-tu, répondit-elle, dans les parchemins de tes musées, la tradition de Rhodopis? Vos archéologues, qui possèdent si bien la politique de Périclès et la stratégie d'Alexandre, ont-ils reconstitué la science d'Aspasie et de Thaïs? Savent-ils si la tombe repose la poussière fine de Phryné n'a pas enfermé pour toujours le secret d'une volupté perdue? Cette tradition, je l'ai encore. Veux-tu la connaître? Je te l'abandonne. Quelles que soient les curiosités des jeunes filles qui liront ce fragment de mémoire, je ne pousserai pas plus avant la description de ce qui suivit. D'abord parce que j'ai déjà écrit sur les documents de Callisto tout un livre qui est Aphrodite, et ensuite parce qu'une certaine réserve me retiendrait peut-être encore à présenter sous une forme personnelle le détail d'une nuit excessive. Callisto mit pied à terre vers midi. Elle me fit observer avec douceur que le soleil était levé déjà et que, par la faute d'un éclairage perfectionné, nous n'en étions même pas aperçus. Vous détruisez la nuit. Vous ne connaissez plus l'aube, dit-elle d'une voix triste. Autrefois, le spectacle des lueurs du matin était la récompense des longues veillées épuisantes. Maintenant, vous passez votre vie dans une lumière monotone et vous ne savez même plus regarder les ténèbres. Je m'inquiétais. Midi, mais tu m'avais parlé pour toi d'une vie bornée aux heures nocturnes. Comment puis-je encore te garder ici? Oh, cette affaire entre moi et Perséphone, fit-elle avec un sourire singulier. Causons? Oh, je n'ai pas fini d'injurier ton époque. J'étais un peu las et cependant nerveux. Assez, dis-je, je t'en prie. Parlons de nous, veux-tu? Laissons le monde, meilleur ou pire. Toi seul m'intéresse. Alors écoute-moi. Tu n'es pas convaincu. Je continuerai jusqu'à ce que tu avoues. Vraiment, je reviens désolé de mon second voyage sur la terre. J'aurais dû rester au tombeau avec le rêve d'un temps plus pur où j'avais grandi dans la joie. J'ai besoin de dire à quelqu'un sur quelle déception je termine ma promenade et que j'en veux à ton siècle pour toutes les surprises qu'il ne m'a pas offertes. Vois-tu, le monde est un jeune homme qui connaît des espérances et qui est en train de rater sa vie. Je ne sais pas. Il me semble pourtant que nous avons beaucoup pensé et beaucoup créé depuis ta mort. Le siècle où nous vivons n'est pas si méprisable. Il l'est, un peu par son impuissance et plus encore par sa fatuité. Non, vous ne pensez pas et vous ne créez pas. Vous êtes des phéniciens habiles à reproduire les modèles inventés par ma race. Mais ailleurs que chez nous, vous ne trouvez pas et vous n'existez que dans notre ombre. » Elle fit un geste. « Promène-toi dans les rues de Paris. Partout, notre âme éternelle éclate à la façade des monuments, au chapiteau des colonnes et sur le fond des statues. Après avoir échafaudé pendant un Moyen-Âge barbare et chétif de misérables bâtisses qui s'écroulent déjà, c'est heureux. Vous, les hommes des temps modernes, incapables de créer, vous êtes revenus à nos ruines et depuis 400 ans, vous faites des mosaïques de pierre avec des morceaux de nos temples. Une colonne trouvée en Sicile a engendré 2000 églises et autant de gardes au chemin de fer. Même à des besoins nouveaux, vous ne savez pas donner une architecture nouvelle. Avec l'airain de vos canons, vous recopiez la colonne Trajane et vous faites des salles de quatuor qui sont de style corinthien. Après nous qui sculptions le marbre et qui fondions le bronze au moule, vous n'avez rien trouvé, pas une pierre naturelle, pas un alliage chimique plus digne de reproduire la figure humaine. Et le seul grand de vos sculpteurs n'est devenu ce qu'il a été que parce qu'on trouve sous terre un torse d'Apollonios, un débris sans tête, sans bras et sans jambes. Une ruine lamentable, mais œuvre créée, celle-là, œuvre créatrice. Écolier !» Elle prit deux livres dans une bibliothèque et les jeta sur le tapis. « Votre pensée, comme votre art, est parasite de nos cadavres. Ce n'est pas Descartes, c'est Parménide qui a dit que la pensée était identique à l'être. Ce n'est pas Kant, c'est encore Parménide qui a dit que la pensée était identique à son objet. » Et dans ces deux phrases, les écoles modernes se pelotonnent tout entières. Elles n'en sortiront pas. Partout où votre science devient générale, c'est-à-dire philosophique, elle se repose encore aujourd'hui sur nos assises fondamentales. Les maîtres d'Euclide ont fixé pour toujours les rapports immuables des lignes. Archimède s'est servi du calcul intégral, bien avant votre Leibniz, qui nous doit également sa métaphysique. Au lieu de méditer devant la chute des pommes, Newton, que vous révérez, aurait pu se borner à lire une page de notre Aristote, où sa théorie de la gravitation universelle était exposée depuis 2000 ans. Sur la constitution de la matière, qui est le problème de Dieu, Démocrite en a fait autant que Lord Kelvin. Son hypothèse reste seule admise. Enfin, au moment où vous êtes sur le point de concevoir une science universelle et centrale, dont la loi suffirait à expliquer la totalité des phénomènes, quelle est cette science et quelle est cette loi? Celle dont Héraclite a donné, voici 2400 ans, l'expression définitive. Le feu se transforme en mouvement, le mouvement se transforme en feu, et c'est là le monde. J'étais épuisé. « Ô Callisto, suppliai-je, écoute mes paroles ailées. Tu es beaucoup trop savante. J'avais bien entendu dire que les courtisanes antiques étaient des femmes de rare intellectualité, mais ce n'est pas cela, sans doute, qui les a faites si belles. Aujourd'hui, si Madame de Pougy, malgré son beau talent littéraire, voulait entretenir M. Boutroux des sujets qui le préoccupent, elle ne réussirait pas à l'intéresser autant qu'une Aspasie parlant à Xénophon. Et pourtant, je la préfère parce qu'elle discourt plus volontiers d'une robe que d'une loi thermodynamique. C'est une conversation qui sied mieux à son corps flexible. D'ailleurs, le charme d'une femme s'accroît toujours au moment où elle se tait. Mais c'est une vérité spéciale dont l'évidence n'apparaît qu'aux hommes. Elle attendit en silence que j'eusse terminé. Puis, avec un entêtement victorieux, elle recommença. Mais quoi qu'il en soit, depuis 2000 ans, vous n'avez découvert ni. Mais nous avons découvert l'Amérique, interrompis-je patiemment. Cela n'est pas vrai. Callisto ne dit pas d'absurdité. Je répète et je soutiens que l'Amérique a été découverte par Aristote et que ceci n'est pas une thèse paradoxale, mais un fait historique épatant. Aristote savait que la Terre était ronde et, oh, tu peux le lire dans ses œuvres, il avait conseillé de chercher le chemin des Indes par l'Occident au-delà des colonnes d'Héraclès. C'est le projet qu'a repris Colomb. Mais on a toujours estimé que la gloire d'une découverte revient au cerveau qui conçoit et non à l'ouvrier qui exécute. Quand le verrier a découvert Neptune, eh bien, dis-je au comble de la lassitude, tu conviens donc au moins de ceci, nous avons découvert Neptune. Et quand cela serait, on a découvert Neptune, mais tu es étonnant. Depuis hier, je te supplie de me révéler un plaisir nouveau, une conquête vers le bonheur, une victoire sur les larmes. Et on a découvert Neptune. Je rentre dans la vie après 20 siècles, anxieuse de tout, jalouse des merveilles que je suppose inventées, me demandant si je ne vais pas pleurer pendant ma vie d'ombre éternelle pour être venue au monde trop tôt. Et on a découvert Neptune. Un plaisir, plaisir de l'esprit, plaisir des sens, que m'importe. Fais-je donc redescendre aux plaines Élysées sans emporter avec moi le frisson d'une volupté nouvelle? Elle étendit les mains, puis brusquement. D'ailleurs, c'est Pythagore qui a découvert Neptune. Je m'affaissai. Parfaitement, expliqua-t-elle inexorable. Pythagore avait trouvé que le système solaire devait se composer de 10 astres. Je ne sais sur quoi il se fondait pour affirmer ce chiffre, mais comme son disciple Philolaos devait discerner plus tard, sans aucun instrument à lentille, et bien des siècles avant Copernic, le double mouvement de la Terre autour de son axe et autour du feu central, comme sans doute il n'était pas possible de comprendre comment une pareille découverte a été établie avec le seul secours du raisonnement, tu n'as pas le droit de préjuger que l'hypothèse de Pythagore ait été inventée témérairement et ne soit confirmée par hasard. Voilà, j'ai dit. Je ne luttais plus. Veux-tu une cigarette? Demandai-je. Comment? Je dis, veux-tu une cigarette? Oui, sans doute cela aussi nous vient de la Grèce, puisque c'est Aristote qui a. Non, 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 je ne vais pas jusque-là. J'avoue que nous ignorions cette inepte habitude qui consiste à s'emplir la bouche avec de la fumée des feuilles. Mais je pense que tu ne prétends pas m'offrir ceci comme un plaisir. Qui sait, as-tu essayé? Jamais. Comment, tu es de ceux qui se livrent à cet exercice ridicule? 60 fois par jour. C'est même la seule occupation régulière dont j'ai consenti à charger ma vie. Et elle te plaît? Je crois véritablement que je me résignerais à ne pas toucher la main d'une femme pendant une semaine tout entière, plutôt que de me voir séparé de mes cigarettes pendant le même laps. Tu exagères. Presque pas. Elle était devenue rêveuse. Eh bien, donne-moi une cigarette. Ben, je te l'offrais. Allume-la. Comment fait-on? On aspire? Oh, les jeunes filles soufflent dedans, mais ce n'est pas le meilleur moyen. Il vaut mieux aspirer, en effet. Et prends une bouffée, ferme les yeux, une autre. En quelques minutes, Callisto avait mis en cendre son petit rouleau de feuilles orientales. Elle en jeta le bout à demi consumé où le fard de ses lèvres avait laissé du rouge. Il y eut un silence. Elle évitait même de me regarder. Elle avait pris le paquet carré dans sa main, qui me parut agité comme une légère émotion, et après qu'elle l'eut examiné sur les quatre faces, je vis qu'elle ne me le rendait pas. Lente, avec le soin qu'on apporte aux objets les plus précieux, elle le posa près du cendrier, sur le bord d'un divan clair où elle l'étendit, son long corps foncé. Fin.